podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau dossier podcast à deux frontières des séries. Et si le salut des séries télévisées venait d'outre-Manche, la Grande-Bretagne s'est en effet montrée ces dernières années très active concernant la production de séries originales, dotées de moyens certainement plus limités que leurs consœurs américaines. Les séries anglaises ont souvent su compenser leur budget par un foisonnement d'idées, de l'audace et des scénarios soignés. Dans la lignée des Skins, Torchwood et autres Doctor Who, Misfits, une dramédie de science-fiction qui a débarqué sur les écrans britanniques en novembre 2009 sur E4 et que l'on a pu découvrir en France sur Orange Cinéchoc. Créé par Howard Overman, Misfits, que l'on pourrait traduire par les marginaux, met en scène un groupe de 5 jeunes délinquants obligés de travailler dans un programme de service à la communauté qui se retrouve doté suite à un étrange et violent orage de super pouvoirs. L'un pourra remonter le temps, l'autre lire dans les pensées, une autre encore devenir irrésistible ou enfin devenir invisible. Traité sur le ton de la comédie, mais ne se déparant pas d'une belle dose d'action et de drame, la courte première saison de 6 épisodes de Misfits a été instantanément un succès d'audience et un véritable petit phénomène qui s'est très bien exporté. Pour nous en parler aujourd'hui, Tilmant Villette et Stéphanie Chavagne.
Bonjour.
Bonjour.
À lire ce résumé, Tilmant, doit-on s'attendre à un mix entre Skin et Heroes à la sauce potache?
Ben, en fait, c'est comme ça que j'aime bien présenter cette série. On a d'un côté, effectivement, donc le côté adolescent de Skins, donc avec des ados qui ne sont pas les ados modèles des séries américaines du style Beverly Hills ou quoi que ce soit. C'est des ados qui boivent, qui se droguent, qui jurent, qui ont des relations sexuelles. Et d'un autre côté, on a ces éléments de science-fiction à la Heroes, puisqu'ici, ces jeunes commencent à être dotés de pouvoirs. Alors, on s'imagine très bien que, justement, ces types de jeunes ados qui vont obtenir des pouvoirs, ça ne va pas se faire sans mal. Ils vont certainement les utiliser parfois à mauvais escient. À la sauce potage, parce que Misfits met clairement l'accent dès le départ sur un côté bonne grosse comédie avec des acteurs qui cabotinent un peu, qui ont des personnages quand même très stéréotypés, avec des dialogues aussi qui sont toujours à la limite du vulgaire, mais toujours très très drôle également, toujours très très bien écrit. Qu'est-ce que ça raconte Misfits? C'est, comme tu l'as dit Alex, un groupe de jeunes qui vont travailler dans des services d'intérêt général parce que ils ont été arrêtés pour diverses raisons et ils ont été condamnés donc à ces travaux. Le premier épisode, ça commence sur leur premier jour de travail. Ils font connaissance, ils apprennent un peu à s'apprivoiser. Ça se fait pas non plus sans mal, puisque c'est des caractères assez forts. C'est des jeunes qui sont pour la plupart un peu soit issus de familles dysfonctionnelles ou bien qui sont en décrochage scolaire, qui ont des problèmes parfois même psychologiques. Et donc au début, il y a quelques conflits, ils se font pas confiance. Et ils se retrouvent l'un un peu à devoir faire des travaux dont ils n'en ont rien à faire avec un superviseur qui ressemble très fort à une sorte de chef de camp de militaire. Donc voilà, ils ont déjà un problème avec l'autorité, alors évidemment ça se passe pas bien. Sur ce premier jour, dès les premières minutes, il va y avoir un événement un peu étrange qui va se produire, c'est qu'il y aura un orage très très violent avec des chutes de sorte de grêle mais d'une taille gigantesque, parfois d'une taille d'une voiture, qui tombe sur Londres. Ils échappent donc quand même à cette avalanche de grosses grêles, mais juste avant de réussir à s'abriter, les 5 amis, enfin qui ne sont pas encore amis, mais qu'ils deviendront, se font foudroyer par l'orage. On remarque, donc ça c'est une scène qui est présentée au ralenti, on voit chacun se faire foudroyer et être projeté en arrière. On remarque qu'il y a un événement un peu paranormal, donc leur pupille, il y a un très gros plan qui se fait sur la pupille des personnages, et on voit que leur pupille commence à se modifier, comme s'il y avait une sorte de modification génétique qui s'opérait. Ils survivent malgré tout à ça et il se passe rien. Donc on se dit ils se sont fait foudroyer et quoi. Mais rapidement leur chef des tiges, donc les travaux d'intérêt général, va se montrer un peu bizarre parce que lui aussi il a été foudroyé. Il va commencer à les insulter et il va commencer à être de plus en plus agressif envers eux jusqu'au point d'en tuer un, pas des 5 mais des 6, parce qu'au début ils étaient 6, mais donc celui-là il fera pas partie de la série puisqu'il servira juste à pouvoir être tué dès le départ, et lui n'aura pas été foudroyé par contre.
Ah, j'allais dire c'est celui qui a le pouvoir le plus compliqué à mettre en image, donc c'est lui qu'on a foudroyé.
Même pas, parce que lui était juste aux toilettes pendant l'orage, donc il a pas été foudroyé. Il va tuer donc ce jeune, et il va essayer de tuer les autres aussi, ce chef, ce Tony. Bon, les jeunes vont commencer un peu à se poser des questions, ils vont se dire bon, qu'est-ce qui se passe, et il va réussir à en tuer un. Et à ce moment-là, un des personnages, Curtis, va s'énerver. On va voir le ton qui va commencer à repartir en arrière. Et juste avant que ce personnage-là soit tué, au lieu d'ouvrir la porte et de se faire tuer, le personnage de Curtis va lui dire « N'ouvre pas la porte, ferme la porte, je sais ce qui va se passer. » Et donc là, il y a le premier élément, le premier pouvoir qui apparaît, c'est le fait que le personnage de Curtis, le jeune Black, puisse remonter le temps. Également, en même temps, plus ou moins, le personnage de Kelly va se rendre compte qu'elle arrive à entendre les pensées des gens. Alors au début, elle se dit qu'elle a certainement des hallucinations, qu'elle a fumé quelque chose, parce qu'elle n'est pas toujours très nette non plus, elle aime bien la fumette, Kelly, et elle va se dire « Bon, mais je commence à entendre les pensées des gens, c'est un peu bizarre. » Et puis au fur et à mesure, comme ça, des épisodes, ces cinq personnages vont commencer à voir leur pouvoir arriver, mais n'osent pas en parler aux autres au tout début, parce qu'ils se disent « Bon, il y a des trucs bizarres, ça doit être moi qui fantasme ou quoi que ce soit. » Le personnage de Alicia, elle, va développer un pouvoir qui sera assez particulier parce que à chaque fois qu'on la touchera, on aura envie de lui faire l'amour, mais qu'elle devienne totalement irrésistible. Un pouvoir qui est en même temps une malédiction puisque ça, en gros, elle ne pourra jamais avoir de relation avec qui que ce soit, alors qu'à la base, c'est un peu la bombasse du groupe. Et le quatrième personnage à avoir des pouvoirs, c'est Simon, donc il va pouvoir lui devenir invisible. Mais au tout début, il ne sait pas le maîtriser, donc à certains moments, il commence un peu à devenir bizarre, et hop, il est invisible, plus personne ne le voit, mais il n'arrive pas à contrôler son pouvoir. Et au début, aucun de ces personnages n'arrive à contrôler leur pouvoir.
Et comment ça se traduit à l'image? Parce que tu dis que les moyens sont limités, alors je me dis, un personnage qui devient invisible, est-ce que c'est pas trop cheap? Est-ce qu'on arrive à y croire?
Ben non, en fait, c'est vraiment facile, parce que il s'amuse à faire une sorte de brouillé sur le personnage, et puis le personnage est toujours à l'image, mais les autres ne le voient pas. Et quand les autres ne le voient pas, il est juste pas à l'image. Donc c'est tout simple, et il n'y a pas d'élément où il commence à disparaître progressivement ou quoi que ce soit, non. Ils vont vraiment au plus facile avec les moyens qui sont à leur disposition, et finalement ça passe très bien. Lire dans les pensées, c'est pas très compliqué, devenir irrésistible, c'est pas très compliqué non plus, et remonter le temps, il suffit juste de faire aller les images en sens inverse, et après de repartir sur la même scène. Donc non, jusque-là, c'est vraiment très très simple. Évidemment, dans la suite de la saison, il y aura d'autres personnages qui auront aussi des pouvoirs, et là, bien sûr, il y aura certainement des moyens qui devront être mis en œuvre. Par contre, il y a un personnage qui a pas son pouvoir, et ça durant toute la première saison, c'est le personnage de Nathan. Et c'est la grosse frustration de Nathan, puisque c'est la plus grande gueule du groupe. C'est vraiment celui qui s'avère au final quand même le leader, mais le personnage qui n'a aucune morale. Et durant toute la première saison, il va voir que ses autres amis ont des pouvoirs et lui n'en a pas. Alors ça, c'est assez drôle parce que pendant toute la première saison, il va essayer de découvrir quel est son pouvoir en se disant « c'est pas normal que les autres en aient et moi pas, j'ai été foudroyé aussi ». Il va se jeter de certaines hauteurs pour voir s'il vole. Il va essayer de bouger les objets en essayant de se concentrer dessus. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, à la fin de cette première saison, il apprendra quand même quel est son pouvoir.
Je t'ai déjà vu quelque part.
Non, désolé, ça m'étonne.
Si, t'es un champion d'athlée. Putain, comment t'as merdé en beauté.
T'as vu ça? C'est sympa de me le rappeler.
Attends, laisse-moi deviner. Vol à l'étalage?
Non.
Arrête de me parler comme si tu me connaissais.
Y'a rien de mal, je veux juste discuter. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres délinquants. On devrait en profiter pour se refiler nos bons plans et comparer nos magouilles. Dis-moi, pourquoi tu t'es fait prendre?
Y'a une gonze qui m'a traité de traînée, alors je me suis battue avec elle.
Vous vous êtes donné un spectacle, du coup?
À la base, j'étais venue faire des courses.
Oh, t'as fait l'animation, alors. Tu sais ce que t'aurais dû faire? T'aurais dû piquer des petits crayons bien pointus et les lui planter dans les yeux. Et toi, l'angoissé, pourquoi t'as pris des tiges? Dis donc, le prends pas mal, mais t'as la gueule d'un mec qui kiffe sniffer des culottes.
Je sniffe pas des culottes. Je suis pas un pervers. J'ai voulu foutre le feu à la baraque de quelqu'un.
Et toi, t'es fait pécho pour quoi?
Moi? Je me suis fait prendre pour avoir piqué des bonbons.
Non, arrête tes conneries.
Vous avez vu ça, c'est quoi ce temps?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Vous avez commencé il y a 5 minutes. C'est pas compliqué, il faut juste peindre des bancs.
expliquez-moi comment vous vous êtes débrouillé, parce que là, j'avoue que ça m'échappe.
Et qu'est-ce qu'il advient donc de ce Tony, le surveillant apparemment fou ?
Eh bien, pour lui échapper, Kelly le tue. Et donc là aussi, il va falloir que les cinq personnages gèrent ce meurtre. Et donc, ils vont enterrer le corps de leur surveillant dans un endroit où il y a des travaux et où une chape de béton va être coulée juste après. Donc, il se retrouve sans surveillant et c'est donc une remplaçante qui arrive, seulement manque de peau pour eux. La remplaçante, c'était la compagne de Tony, qui va enquêter durant aussi toute cette saison pour savoir ce qu'il est advenu de son compagnon, qui soupçonne quand même très rapidement ces jeunes d'avoir participé au fait que son compagnon soit mort ou soit disparu en tout cas. Bon, évidemment, elle n'était pas au courant qu'il était devenu fou et qu'il avait essayé de les attaquer, mais elle va, par ce biais d'être surveillante, séduire Simon, qui est donc le personnage qui peut devenir invisible, qui est un personnage très timide, très crédule, très naïf, et elle va essayer de lui faire croire qu'il compte pour elle, pour essayer de grappiller des informations pour qu'il puisse se confier à elle aussi. Évidemment, c'est pas de tout repos pour les personnages cette première saison, parce que entre la gestion de leur pouvoir, le fait qu'ils doivent gérer ce meurtre qu'ils ont commis, et qu'il y a d'autres événements qui vont se rajouter, puisqu'on va apprendre durant cette saison que ce n'est pas les seuls à avoir été foudroyés, ce n'est pas les seuls à avoir obtenu un pouvoir, ils ont quand même fort à faire. Je vais peut-être revenir également donc sur chacun des personnages. Timon, c'est un personnage qui est un peu autiste, qui a du mal avec les rapports sociaux. Il aura énormément de mal à s'intégrer dans le groupe, puisque évidemment, vu que c'est un personnage qui est un peu en retrait, il devient rapidement la tête de Turc, en tout cas de Nathan, qui est la grande gueule, donc il s'en prend toujours à lui. C'est surtout flagrant par rapport à lui, mais après, en faisant l'analogie avec les autres personnages, tout leur pouvoir obtenu a un rapport avec leur caractère. Donc le personnage de Simon, qui est effacé, craintif, eh bien, il sait devenir invisible, en fait. Il sait carrément disparaître par rapport au regard des gens. Lui, il a été condamné, Simon, parce qu'il a tenté d'incendier la maison d'un lycéen qui s'était moqué de lui. On remarque un peu le caractère légèrement psychopathe aussi du personnage, mais un psychopathe qui plus est, qui ne s'exprime pas en fait, qui contient tout. L'autre personnage qui est assez marquant, donc, c'est le personnage de Curtis, qui a son pouvoir de remonter le temps, qui est à la base un garçon convenable. Il est champion d'athlétisme, il a été très très bien classé, il a de très bons rapports avec sa famille, seulement il a été arrêté parce que il a été pris en possession de drogue, alors que, et ça on le verra dans un flashback, ce n'était pas de sa faute, c'était simplement qu'il a voulu protéger sa compagne qui, elle, avait de la drogue. Au moment où les flics ont fait une descente dans la boîte, il a pris la drogue avec lui et il s'est fait choper à ce moment-là. Donc son pouvoir de remonter le temps, c'est parce qu'il a le regret. Ça sera le centre d'un épisode comme un jour sans fin. Donc il essaiera de remonter toujours le temps pour voir s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, donc garder la drogue pour lui, si les choses se seraient passées de la même manière. Et à chaque fois qu'il remonte le temps pour essayer de modifier les événements, il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui vient à clocher. Donc soit il n'a pas gardé la drogue mais c'est sa compagne qui se fait tuer, soit il remonte le temps, il réussit à bien gérer cet événement dans la boîte, mais au final il se rend compte que s'il n'avait pas su remonter le temps quelques mois plus tard quand il faisait ses travaux d'intérêts généraux, ses nouveaux amis seraient morts parce qu'ils auraient été tués par Tony, le surveillant en fait. Et donc voilà, à chaque fois on se rend compte que c'est pas en essayant de remonter le temps tout le temps qu'on réussit à améliorer les choses, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Le personnage de Kelly, c'est la fille qui est pas sûre d'elle, qui montre son manque de confiance en étant agressive simplement avec les gens. Et le fait qu'elle puisse lire dans les pensées, là aussi c'est lié à son caractère. Donc elle réussit à anticiper déjà ce que les gens peuvent penser d'elle, ce que les gens viendraient à lui cacher. Et ça lui permet, malheureusement dans certains cas également, d'en rentrer en conflit avec certaines personnes parce que toutes les pensées ne sont pas bonnes à entendre non plus. Et parfois elle se fait blesser aussi à cause de ça. Alors elle a été condamnée parce qu'elle s'est battue avec une autre fille, tout simplement, qui l'avait traitée, elle l'a retraitée en retour. Le personnage d'Alisha, qui est le personnage de la bombasse, qui aime bien jouer de ses charmes, qui aime bien draguer les garçons, là aussi il est en lien avec sa personnalité puisqu'elle deviendra tout à fait irrésistible, et une fois qu'un homme viendra à la toucher, il aura quoi qu'il arrive envie d'elle, mais pas d'une manière, je dirais, galante ou quoi que ce soit, c'est carrément avoir envie de la violer comme une bête. Et évidemment ce pouvoir, ça va changer sa vie puisqu'elle comprendra rapidement qu'elle en est réduite à ne pas pouvoir avoir de relation avec qui que ce soit, puisque dès qu'on la touche, finalement on a envie de la violer. violée. Elle va quand même entretenir une relation avec Curtis assez rapidement. On voit que ces deux personnages se plaisent. Ils vont instaurer donc des sortes de moyens pour réussir quand même à avoir une vie sexuelle ensemble. Ça veut dire qu'ils font l'amour par téléphone. Ils font l'amour simplement en se regardant et en se masturbant chacun. Mais bon, voilà, rapidement, elle va quand même se rendre compte que ça ne la satisfait pas d'avoir une vie comme ça.
Mais à t'entendre, ça n'a pas l'air d'être un pouvoir positif.
Non, c'est pas du tout positif finalement. Ça l'aide dans certains cas tout simplement. Quand ils sont dans des situations problématiques, elles touchent la personne qui leur pose problème. Et évidemment, la personne perd tous ses moyens et a envie de la violer. Donc ils ont le temps de s'échapper ou des choses pareilles, mais au final non, c'est pas positif pour elle et c'est plus une malédiction pour elle en fait. Et le dernier personnage, c'est Nathan, et lui, donc je vous disais, durant toute la première saison il a pas de pouvoir, et à la fin de la première saison il y a une sorte de boss final comme dans les jeux vidéo, avec une sorte de grande méchante qui apparaît et qui est une bigote complètement mormone et qui veut pouvoir transformer les jeunes en parfaits petits agneaux de Dieu. Et donc des personnages qui étaient tout à fait borderline deviennent tout à fait rangés. Donc le personnage de Kelly, on la verra avec une belle robe, une belle coupe de cheveux, des petites couettes, etc. Même le personnage d'Alicia, elle arrêtera de mettre des mini-jupes provocantes aussi. Ce big boss final va révéler le pouvoir de Nathan, puisque à la fin de la première saison, Nathan va sauter d'un toit pour tuer cette fille qui commençait à créer une secte énorme. Et il va sauter d'un toit, il va se faire empaler sur une grille. C'est l'enterrement de Nathan. Et tous les personnages donc sont très tristes, surtout Kelly qui s'était rapprochée énormément de Nathan. Les personnages rentrent chez eux et puis on se rend compte quelques minutes plus tard que Nathan n'est pas mort. Il a été enterré, il est dans son cercueil. Et il se réveille et il se rend compte que son pouvoir, c'est l'immortalité. Il sait pas mourir.
C'est la cheerleader, en fait.
C'est la cheerleader, c'est lui. Et il est tout content, il est tout fou à la fin de la première saison de pouvoir, enfin, avoir son pouvoir. Seulement, il se rend vite compte qu'il est dans son cercueil, environ 6 mètres sous terre, et donc il est bloqué. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il allume son iPod.
Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup ?
C'est à cause de cette chanson. À chaque fois que je l'entends, ça me fout le bourdon.
Il y a une vieille qui arrêtait pas de te mater.
J'espère que Rose lui a pas dit qu'on a couché ensemble.
Oh, merde! Non, 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 non! T'as couché avec elle?
Ouais, j'ai couché avec elle. On a même fait ça sur son déambulateur.
Oh. Je le crois pas, t'as vraiment fait ça?
Je vous dis que non! Ah, vous là, tu t'es tapé la vieille? Oh, ça c'est la gerbe totale!
Alors, est-ce que ça t'a plu?
Toi, l'obsédé, je t'ai pas sonné!
Je crois que ça lui a plu.
Ça t'excite, les vieilles?
Non!
Elle avait l'air jeune quand on a commencé. Écoutez, vous vous rappelez cette fille, Rose, qu'on a vue mardi? Mignonne comme tout. Eh bien, la vieille toute ridée de tout à l'heure, c'est elle. C'est Rose. C'est à cause de l'orage. Apparemment, ça l'a rajeunie.
Tu vas pas nous dire que... que tu lui as aussi... comment dire... Oh, j'ai l'impression que si. Il l'a fait. Service complet. Nathan. Excuse-moi, je voulais pas leur dire, c'est sorti comme ça.
Oh, t'as fait du beau boulot. Bien joué. Félicitations. Et reste en dehors de ma tête, ok?
Baiseur de croulante.
Est-ce que cette série, elle est pas trop adolescente, trop jeune? Est-ce qu'elle peut toucher un public qui a la trentaine, par exemple?
La trentaine, je pense, oui. Maintenant, effectivement, je crois pas que les personnes du troisième âge pourraient adhérer à Misfits, déjà d'un point de vue des thèmes traités, parce que ça reste quand même des thèmes assez marqués ados. Ça reste quand même, dans l'ensemble, même s'il y a une critique sociale par rapport aux familles des personnages, ça reste de l'entertainment, quoi. Donc c'est vraiment du divertissement. Et puis également, d'un point de vue du vocabulaire utilisé, on utilise quand même beaucoup d'argot, beaucoup de verlan, des personnages qui sont simplement des adolescents du 21e siècle, donc ils utilisent la nouvelle technologie, ils écoutent de la musique, et de ce point de vue-là, chapeau à la BO parce qu'elle est toujours super bien soignée, mais c'est quand même de la musique qui plairait plus, je dirais, à un public de 40 ans et moins, certainement. Au-delà, on risque de peut-être pas trop accrocher à l'univers de Misfits.
Mais on est quand même loin de... série vraiment ciblée teen comme les sorciers de Waverly Place, c'est le grand écart entre
tout
les deux.
Tout à fait, mais de toute façon je ne conseille pas la série non plus aux moins de 16 ans, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de thèmes sexuels qui sont abordés et d'une manière très crue, notamment aussi parfois dans certaines images, ça reste brut de décoffrage. On est je dirais, dans quelque chose qui se rapproche, et là, je reprends à nouveau la comparaison, mais de Skins, des adolescents en perte de repères, qui évidemment ne sont pas les adolescents rêvés qu'on peut voir dans les séries américaines trop policées. Néanmoins, je disais aussi que les personnages sont stéréotypés. Il y a quand même une bonne couche de clichés de Skins qui est enlevée. Dans Skins, c'était quand même parfois bien chargé. Les personnages, c'est une série que j'aime beaucoup, mais certains personnages étaient quand même pas mal chargés. Ici, on enlève quand même aussi pas mal de drama de tous ces personnages-là pour en faire effectivement des personnages un peu stéréotypés, un peu clichés, mais qui vivent aussi au-delà de leurs clichés et qui dépassent même certains moments leur figure de cliché en disant « bah oui, je suis comme ça et voilà, c'est pas grave ».
En t'écoutant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il y a une certaine forme d'humour dans cette série.
Tout à fait. Donc, il y a plein de moments qui sont désamorcés avec l'humour. C'est une série durant laquelle j'ai énormément ri. J'ai plus ri qu'autre chose d'ailleurs en voyant cette série parce que les dialogues sont vraiment extraordinairement bien agencés et les répliques fusent à tout moment. Même si c'est parfois gras, même si c'est parfois vulgaire, on ne peut s'empêcher de rire. Et puis les acteurs sont vraiment excellents. Ils sont vraiment très très bien. Ils campent parfaitement leur personnage. Donc là aussi, d'un point de vue du choix du casting, ça a vraiment été excellent. Et ils sont terriblement attachants. Et donc ça aussi, ça se rapproche de Skins. Les personnages de Skins étaient attachants. Les personnages de Misfits sont très attachants aussi. Et on sent une évolution dans leur personnage. Simon, par exemple, qui est tout à fait renfermé au fur et à mesure de la saison, mais il va commencer à gagner un peu en assurance. Le personnage de Nathan, qui était une vraie tête à claque, un vrai con au début, va montrer des qualités humaines, va montrer parfois un peu de morale pour ses amis, va montrer qu'il cherche en fait des amis, même s'il exprime mal. Les personnages évoluent, on s'attache énormément à eux et dans certains épisodes, quand le personnage de Nathan est mort, j'avais la larme à l'œil, quoi, parce que c'était vraiment une scène horrible. Je m'attendais pas à ce qu'il soit immortel. Je pensais réellement qu'ils allaient supprimer le personnage en disant, voilà, il n'avait pas de pouvoir.
Ce qui est un pari quand même assez hautement relevé, sachant qu'il n'y a que 6 épisodes.
Voilà, en plus, c'est une saison très courte. D'un côté, on en a envie de plus, on en espère toujours plus avec Misfits, mais ça leur permet, je pense, également de garder une certaine qualité d'un point de vue des épisodes, d'un point de vue de l'écriture, et surtout d'avoir une certaine cohérence dans la saison même. Donc il y a parfois des éléments qui sont repris d'un épisode et ils sont rebalancés 4 ou 5 épisodes plus tard, ce qu'on imaginait étant des détails ou parfois on ne voyait pas trop où ils voulaient en venir, ça s'insère parfaitement dans un scénario qui a déjà été imaginé comme ça. Donc on voit réellement que ce qui se passe dans un épisode va intervenir durant tous les autres épisodes, va conditionner certaines actions de personnages aussi. Les seuls petits points négatifs dans Misfits, c'est le manque de moyens. Les effets spéciaux, évidemment, sont un peu limités. C'est notamment, moi, je trouve aussi ce qui posait parfois problème dans Heroes, c'était le kitsch de certains effets, parce que, malheureusement, à la télé, on n'a pas les moyens du cinéma non plus. Et puis, mais ça, finalement, on s'y habitue, il faut malgré tout pouvoir l'accepter, c'est la certaine répétitivité de certaines intrigues, c'est-à-dire que chaque épisode peut se suffire presque, je dirais, à lui-même, même s'il y a des éléments de feuilletonisant, mais il peut suffire à lui-même dans le sens où on introduit quand même à chaque fois dans un épisode un personnage qui a un pouvoir nouveau, même si c'est pas un personnage récurrent, il disparaît à la fin de cet épisode-là.
C'est un peu le syndrome les 4400, j'ai l'impression.
Voilà, donc à chaque fois, il y a un personnage qui aura une intrigue avec un autre, qui rencontrera une compagne ou un compagnon, qui aura une aventure policière, sexuelle ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse montrer un peu un autre pouvoir. Bon, évidemment, c'est fun parce qu'ils ont pas mal d'idées dans les pouvoirs et c'est souvent des pouvoirs qui sont bien amenés. Mais bon, au final, c'est pas des personnages qui seront récurrents, c'est des sous-intrigues, je dirais, mais qui sont toujours quand même traités de manière assez drôle.
Voilà, c'est là-dessus qu'on va refermer ce dossier. Merci à vous deux pour votre présence et votre analyse. Je vous rappelle que la série Misfits et ses 5 saisons sont disponibles en DVD si vous désirez la découvrir. Merci à tous de votre fidèle attention. On se retrouve très prochainement dans un prochain podcast sur fds.tv.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.